Gloire à Dieu. On va commencer une nouvelle petite étude qui va durer quelques semaines. Puis le sujet est intéressant parce que ça va nous aider à avoir une vision un peu plus profonde au niveau de porter du fruit. Parce que le titre du message, c'est « Comment devenir actif pour le Seigneur et porter du fruit en abondance ». On va voir un peu en général qu'est-ce que c'est que du fruit, pourquoi porter du fruit ce soir, c'est ça justement. Pourquoi faut-il que tous portent du fruit ou des fruits pour Dieu? Ce qu'on va comprendre ce soir, c'est que Dieu avait un but lorsque créé l'univers. Nous-mêmes, quand on bâtit une famille, on a un but. On veut élever des enfants, on veut en prendre soin. On veut les élever, les partager ce qu'on connaît, ce qu'on a comme bien, leur faire profiter de tout ce qu'on a, puis de tout ce qu'on est. On veut leur donner notre amour, puis nos enfants grandissent, puis normalement, ils sont reconnaissants de ce qu'ils reçoivent en temps normal. Puis, ils peuvent rendre à leur tour un merci ou rendre des services, voyez-vous. C'est un travail ensemble. Mais Dieu, c'est un peu ça aussi qu'il a fait. Quand il a voulu créer l'univers, il voulait avoir des créatures à son image, puis il voulait prendre du temps avec ces créatures-là. Il voulait leur parler, il voulait se révéler pour que ces créatures-là, qui est nous, les humains, on puisse apprendre à le connaître, puis à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, puis pouvoir commencer à développer une relation avec lui. Puis quand notre tour, qu'on devienne reconnaissant de ce qu'il nous donne, puis on lui dit des merci, puis pas juste des « donne-moi », on veut aussi le remercier, puis être à son service, puis le servir, pour faire quelque chose pour lui. C'est un peu ça pourquoi que Dieu a créé l'univers. L'ensemble de la création, elle devait servir pour la gloire de Dieu. Tout ce qui a été fait sur cette terre, quand il a créé le paradis terrestre, il a créé les humains qui étaient là, il y avait les arbres de toutes les sortes d'espèces d'arbres qui existent, des arbres fruitiers, ils pouvaient manger tous ces arbres-là. Ils étaient heureux, pour être heureux, être bien, être dans une relation avec Dieu, puis profiter de la création de Dieu. Tout ça devait servir que si les humains puissent dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies ». C'est ça qui était le but. Parce que dans Romains 11, 36, ça nous le dit que c'est de Dieu, de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dieu, dans ce verset-là, est en train de nous dire c'est par lui, c'est de lui, puis c'est pour lui que tout a été créé. Souvent, on pense, Dieu, il est là pour être à mon service. On aimerait que Dieu soit comme un génie que tu frottes de temps en temps, puis tu lui demandes un exaucement, puis quand tu n'as besoin, tu le cales, puis quand tu n'as pas besoin, tu serres la bouteille, puis que tu t'en sers pas. Souvent, c'est de même qu'on pense envers Dieu. Mais il faut jamais oublier que le Créateur, c'est pas nous qui sommes les Créateurs. Nous sommes des créatures. C'est lui, le Créateur, qui avait un plan bien précis quand il a créé l'univers puis tout ce qui s'y trouve. Il avait un plan bien précis. Il voulait vivre une relation avec nous. Puis ça, c'est correct. Jusqu'à là, ça va. Mais il voulait qu'on soit, qu'on réalise qu'on n'est pas là pour nous, on est là pour lui en premier. Que l'ensemble des humains que sur cette terre devaient vivre pour lui. On va comprendre ça un petit peu plus loin parce que le but de tout ça aussi, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il l'a laissé avec le libre arbitre, il a dit, il a donné le choix. Il a pas forcé l'homme. Dieu, c'est une relation d'amour qu'il voulait développer. Fait que il a laissé Adam et Ève avec la liberté d'action, puis il a quand même laissé aussi le diable y aller pour aller dire une parole contraire à ce que lui, Dieu, avait déclaré. Fait que dans son amour, Dieu a laissé l'homme libre pour que l'homme réagisse par obéissance, par amour, et non pas parce qu'il est obligé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a désobéi. Ça l'a entraîné que les humains ont eu comme pour père un autre boss dans leur vie, au lieu que ça soit Dieu, qu'il soit celui qui était adoré et aimé. Ça a tombé être le diable. Ça l'a entraîné l'ensemble de l'humanité à vivre dans une vie qui est tout croche, toute détruite. Tout ce que Dieu a fait de beau, de bon, parce que ça nous dit quand Dieu crée les choses, et voici, toute chose était bonne. Dieu a déclaré cela, que les choses étaient bonnes, mais que se sont toutes gâtées après la première désobéissance. C'est là que le péché est entré dans le monde. C'est là qu'il y a eu des conséquences à Adam et Ève qui ont été privés du jardin d'Éden. C'est là que ça a entraîné que l'ensemble de l'humanité tombe sous la tutelle d'un boss, d'un tyran qui est le diable. Puis la maladie, la mort physique, les souffrances dans ce monde, tout en est découlé suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Mais le plan initial de Dieu, il nous aime, puis il voulait nous donner la liberté, mais on a choisi le chemin le plus difficile, c'est de désobéir, pensant qu'on est plus libre, on se cale de plus en plus, puis on est de plus en plus enchaîné par notre méchanceté ou par le mal qui nous environne. Fait que Dieu, quand même, nous tendait les bras pour qu'on retourne à lui, qu'on puisse porter du fruit encore pour lui, qu'on puisse être encore comme développer une bonne relation ensemble, puis qu'on puisse revenir à lui pour retrouver le contact. Fait que là, Dieu, dans son plan, c'est qu'il a choisi un peuple d'entre les peuples. Puis ça, il a choisi le peuple juif, le peuple d'Israël, parce qu'il a fait une alliance avec Abraham, qui a dit dans sa descendance, ça va être aussi nombreuse que le sable de la mer, puis que là, Dieu était pour choisir, bénir le peuple d'Israël, parce que c'était les descendants d'Abraham. Puis le peuple juif, il a été mis à part dans le but de servir Dieu, puis de le glorifier, pour que ce peuple-là soit des représentants de Dieu sur la terre. Fait que ce peuple-là était pour connaître la parole de Dieu, la pensée de Dieu, puis ils devaient développer une relation d'amour avec ce Dieu-là qui les avait sortis de l'esclavage de l'Égypte. Parce qu'on se rappelle, le peuple juif, quand Dieu est allé chercher, il était tout en esclave, il était tous des esclaves en Égypte, puis il était sous le pharaon, puis le peuple égyptien s'en servait comme esclave, puis il faisait de la brique, puis il était sous une rude servitude, puis Dieu envoyait un libérateur avec sa puissance, il a libéré le peuple, il l'a sorti de l'Égypte, puis il l'a emmené dans une terre promise. Dieu voulait se faire un peuple qui lui appartient, qui puisse porter son nom. Un peuple qui porte son nom sur la terre, un peuple qui vit pour le vrai Dieu, un peuple qui était pour servir le vrai Dieu, porter du fruit pour Dieu. Dans Actes 15-14, quelqu'un qui est en train de raconter ce que quelqu'un avait dit, c'est Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Dieu a choisi parmi les nations un peuple qui était pour lui porter son nom, pour que le nom de Dieu soit invoqué parmi ce peuple-là. C'était le peuple juif. Dieu voulait développer avec le peuple juif une relation, puis qu'il voulait que le peuple puisse être béni de connaître Dieu, puis Dieu était pour les bénir. Sauf que, un autre avantage que les Juifs avaient, j'en ai mentionné un peu dans les explications, on voit ça dans Romains 3, le verset 1, qu'il y avait un avantage d'être un Juif dans cette époque-là. Parce que sur l'ensemble de la planète, les gens ne connaissaient pas le vrai Dieu. Mais un des avantages qu'on voit dans ce passage-là, ça nous dit, quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Là, il dit, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce qui concerne que les oracles de Dieu leur ont été confiés. La grande bénédiction que les Juifs ont reçue d'avoir une relation avec Dieu, c'est que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est quoi ça, les oracles de Dieu? La parole de Dieu, les paroles de Dieu qui ont été prononcées par les prophètes. Là, tu lis l'histoire de l'Ancien Testament à partir du début de la création. Si on a ces livres-là aujourd'hui, là, tout l'Ancien Testament, c'est à cause que ça a été confié aux Juifs. C'est les Juifs qui ont eu la révélation de Moïse, des prophètes, tout ça. Ça a tout été donné à des Juifs, que ça a tout été donné par écrit, puis ils ont protégé ces écrits-là jusqu'à temps que Jésus-Christ paraisse. C'est le peuple de Dieu qui a été choisi par Dieu pour être les représentants de Dieu sur la terre, puis qui ont protégé la parole de Dieu pour qu'on l'ait encore au temps de Jésus. Les gens étaient conscients des écrits prophétiques qui existaient dans ce temps-là parce que les écrits étaient protégés par les Juifs, parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Dieu a béni le peuple juif pour leur confier les révélations du Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu, le Créateur de toutes choses. Fait que c'était tout un honneur quand même pour le peuple juif d'avoir été les porteurs de la parole de Dieu. Puis le nom de Dieu devait être prononcé par eux, puis que les nations dans l'ensemble puissent apprendre à connaître Dieu au travers de ce peuple-là. Sauf qu'il y a eu, encore une fois, un changement dans le programme de Dieu. Bien que Dieu avait choisi ce peuple-là pour être ses représentants, ce peuple-là a ignoré Dieu. Ce peuple-là se sont détournés de Dieu. La majorité des Juifs sont détournés de Dieu, puis se sont mis à servir d'autres dieux ou des idoles. Ils ont tombé dans toutes sortes de désobéissances, toutes sortes de... Dieu avait donné la loi de Moïse, pour donner comme un mode de vie au peuple juif, puis ils respectaient pas tout ce qu'ils devaient faire. Fait que leur vie était devenue sans fruit. Eux qui étaient pour être les représentants de Dieu, puis avoir beaucoup de fruits dans leur vie, ça a été une vie d'oublier Dieu, servir d'autres dieux, déplaire à Dieu, désobéir à Dieu, faire le contraire de ce que Dieu a dit, puis qui était sans fruit pour Dieu. Puis là, on voit dans Matthieu, c'est Jésus qui parle, rendu à un moment donné, qui a fait un constat sur leur état. Jésus a dit qu'à cause de leur rébellion, le royaume de Dieu leur a été enlevé. Jésus a dit ça dans Matthieu 21, au verset 43. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Dieu, depuis le début, il cherche du monde qui vont porter du fruit pour lui. Il a créé les humains pour porter du fruit pour lui, puis ils se sont détournés. Déjà au début, les deux premiers humains se sont rebellés. Tout de suite après ça, ça a été le peuple juif, ils ont été choisis par Dieu pour porter du fruit, puis finalement ils se sont rebellés, puis ils n'ont pas porté de fruit. Puis là, rendu au temps de Jésus, Jésus a dit aux juifs, là c'est arrivé, je vous le dis, que le royaume de Dieu va vous être enlevé, puis là il va être donné à une nation qui va porter du fruit. Fait que là, Dieu regarde l'ensemble de la planète, il regarde l'ensemble de la planète, puis ils cherchent à y trouver des fruits. Ceux qui étaient les responsables pour l'emporter ont tout rejeté. Là, Jésus, dans son constat encore, il ramène une parabole. Puis cette parabole-là, que je vais vous lire ce soir, ça va rentrer, au fil de la mesure qu'on va avancer dans l'étude, vous allez comprendre, Dieu cherche du fruit de sa création. Dans Luc 13, le verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, puis il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Là, le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour, j'y mettrai du fumier, et peut-être qu'à l'avenir, il donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Mais Jésus, quand il a dit cette parabole-là, il voulait faire prendre conscience aux gens qui sont autour. Il a pris l'exemple de quelqu'un qui avait des vignes, puis qui avait un figuier planté dans la vigne. Puis que là, ce propriétaire-là s'en va prendre des fruits, puis il n'y en a pas de fruits qui poussaient. Puis ça faisait 3 ans qu'il était là, puis qu'il n'en avait jamais de fruits. Puis là, il dit à celui qui s'occupe de la vigne, il dit, pourquoi faire tu le restes planté là? Il occupe. Pourquoi tu le laisses là occuper la terre inutilement? Coupe-le. Mets quelque chose d'autre qui va porter du fruit. Parce que le maître s'attendait à recevoir du fruit, mais il n'en reçoit pas de fruits. L'autre, il a dit, prends patience. On va y mettre de l'engrais, on va s'en occuper pour qu'il y en ait du fruit. Puis si finalement, au bout, il n'y en a pas de fruit, mais coupe-les. Mais on voit là-dedans quand même le plan de Dieu dans son ensemble, dans ce verset-là. Dans l'ensemble de la création qui est comme la vigne de Dieu, le vigneron, le vignoble de Dieu, l'ensemble de la création, c'était pour être des humains dans l'ensemble qui devaient porter du fruit pour Dieu. Puis Dieu vient régulièrement regarder chacun de ces êtres humains sur cette terre, puis il les pose toutes un par un, puis il regarde toutes. Puis Jésus, Dieu, s'attend à recevoir du fruit de leur vie. Les gens vivent présentement sur cette terre sans se soucier qu'ils ont affaire, qu'ils ont un compte à rendre à ce Dieu-là, puis qu'ils pourraient peut-être lui dire merci, ou peut-être l'aimer, peut-être le servir, mais au lieu de ça, les gens l'ignorent, ils veulent pas savoir qu'est-ce qu'il y a à dire, puis ils font toutes sortes de choses dans leur vie qui déplaient à ce Dieu-là. C'est lui le Créateur, c'est pas nous. Nous, on vit sur du temps emprunté. C'est du temps prêté qu'on a. Il nous a prêté la vie pour un laps de temps. On peut vivre 50 ans, 70 ans, 90, si on est ben plus vigoureux que les autres, c'est rien. C'est juste un petit bout de temps qui nous est prêté. Puis Dieu vient nous voir régulièrement, s'attendant de trouver du fruit dans notre vie. Puis quand il n'y en a pas de fruit, mais il dit aux autres, pourquoi faire que cette personne-là occupe-t-il la terre inutilement? Elle me rapporte pas de fruit. Cette personne-là sera supposée de m'en rapporter. Chaque être humain sur la terre a été créé pour marcher en relation avec Dieu. Pour dire des merci, puis de chercher à le connaître, puis chercher à avoir une relation, puis à rétablir la relation avec, puis de pouvoir vivre pour lui, pour le servir. Puis là, à ce moment-là, on se trouve à porter du fruit. Mais qu'est-ce qui arrive? Les gens, ils sont trop occupés pour leurs besoins personnels, qui prennent pas le temps de s'occuper des besoins de Dieu. Puis c'est lui qui a le dernier mot en passant. Il nous a prêté la vie temporairement, puis un jour, elle va nous être enlevée. Notre temps terrestre, ça va être fini. Puis on va arriver l'autre bord. Sommes-nous de ceux qui ont porté du fruit pour Dieu ou de ceux qui l'ont ignoré puis qui ont vécu leur vie pour eux-mêmes? Il faut comprendre que pour nous, en chrétiens, aujourd'hui, on regarde ça, mais faut pas oublier qu'on était tous, on faisait partie de ceux qui n'en portaient pas de fruits. Avant de connaître Jésus, là, on faisait tous partie de ceux qui n'en portaient pas de fruits. C'est ce que ça nous dit dans Romains 7, 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi s'agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. On avait des fruits, pas pour Dieu. On avait des fruits pour la mort en vivant dans le péché, dans nos passions, dans des affaires qui déplaisaient à Dieu. On vivait pas pour Dieu, on vivait pour nous, en produisant toutes sortes de désobéissances, on avait des fruits pour la mort. C'est grave, on était tous dans cet état-là avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Puis notre esclavage de nos péchés nous disqualifiait de plaire à Dieu. C'est impossible de plaire à Dieu. Quand on marche dans la chair, puis dans nos péchés, puis dans des choses qui déplaisent à Dieu, c'est impossible de lui plaire. Dans Romains 6, 20, ça nous dit que lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Il dit, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Les fruits de nos passions, puis de nos péchés, puis de nos rébellions, puis de nos désobéissances qu'on avait avant de connaître Jésus-Christ, c'était des fruits qu'on a honte aujourd'hui quand on y repense. Quand plus que tu t'apprends à connaître la parole de Dieu, plus tu apprends à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, plus ta conscience devient affilée, puis que tu trouves ça de plus en plus grave, tous les péchés qu'on vivait. Au début, quand on était dans le péché, on se vantait de nos péchés, puis on trouvait ça drôle. Mais quand tu avances dans ta vie chrétienne, tu réalises de plus en plus comment qu'on, c'est honteux toute la vie de péché qu'on vivait avant de connaître Jésus-Christ. Puis tous ces péchés-là dont on rugit aujourd'hui, mais c'est à des fruits pour la mort. Puis la fin de ces choses, c'est la mort. On était tous des gens qui étaient dans ce chemin-là. Faut comprendre ce soir que le message de Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste puis de Jésus, que c'est un appel à la repentance. Puis le mot repentance, ça veut dire changement de vie. Autant qu'avant, on aimait les péchés, on voulait vivre dans le péché, puis on trouvait ça plus que t'en fais, plus que tu t'en vantes, plus que tu penses que t'es bon. Ça nous menait dans la mort. Mais aujourd'hui, en réalité, quand on a entendu le message de Dieu, le message comme Jean-Baptiste le prêchait ou comme Jésus le prêchait, ça nous disait, comme dans Luc 3:8, c'est Jean-Baptiste qui parlait, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Puis ne dites pas vous-même, nous avons pour Abraham pour père, car je vous le déclare, que Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça, c'était la prédication de Jean-Baptiste. Puis Jésus prêchait les mêmes choses. Il disait aux gens, « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Puis le mot « repentance », ça veut dire « Changez vos vies, le royaume de Dieu est proche. » Arrêtez de vivre dans le péché, le royaume de Dieu est proche. C'est ça qui était le message. Tournez-vous pour croire à la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est proche. Puis il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. La cognée, c'est la hache. La hache qui est mise à la racine des arbres, tout arbre qui porte pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Ça revient à la même chose que qu'est-ce qu'on disait dans la parabole tantôt. La parabole, il dit, pourquoi faire que cet arbre-là occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-les! Mais la coupe est déjà commencée. Toutes les gens qui meurent dans leur péché sont perdus à tout jamais. Toutes les gens qui se sont pas repentis selon la parole de Dieu qui nous dit d'aller à Jésus pour recevoir le pardon, pour changer notre vie. Se repentir, c'est changer notre vie. Autant qu'avant, on vivait d'une manière qui déplaisait à Dieu. Quand on veut se tourner vers Jésus, c'est pour être pardonné de cette mauvaise manière-là de vivre qu'on avait, pour être pardonné de tous nos péchés, parce que Jésus a tout payé en mourant sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être lavé, pardonné, purifié de tous mes anciens péchés, mais en même temps pour vouloir changer de vie, parce qu'on veut changer, on veut se repentir, on veut plus porter du fruit pour la mort, on veut porter du fruit pour Dieu. On veut devenir des producteurs de fruits pour Dieu. On veut faire plaisir à Dieu une fois que t'es sauvé. Une fois que t'es sauvé, tu veux suivre Dieu. Tu veux l'aimer. Tu vas apprendre à le connaître. Tu vas apprendre à connaître sa volonté. Puis tu veux marcher dans ses voies. Fait que le message de la repentance qui a été répandu aussi même parmi les païens, parce que au début c'était juste pour les juifs, mais après ça a été répandu par les païens, c'était le même message que l'apôtre Paul prêchait. Dans Romains 15-16, ça nous dit, Paul est un ministre de Jésus-Christ, est un serviteur de Jésus-Christ parmi les païens, puis il dit, « M'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit-Saint. » Voyez-vous, l'apôtre Paul avait compris que sa mission était d'aller chercher des païens puis de les amener à la repentance pour que les païens soient des offrandes agréables à Dieu lorsqu'ils se convertissent. Les gens se convertissant, ils se tournent vers Dieu, puis ils commencent à se donner au Seigneur, puis à marcher pour le Seigneur, à vivre pour le Seigneur, puis que ce soit agréable au Seigneur. Puis là, le Seigneur regarde les gens qui se convertissent, puis les gens qui veulent changer de vie, puis là, le Seigneur, il est content, puis il les accueille toutes. Il leur a donné l'occasion par l'Évangile. L'Évangile, vous savez, c'est quoi l'Évangile? C'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, puis il est ressuscité pour nous faire entrer dans les cieux. Puis là, c'est ça la bonne nouvelle. Puis à cause de la bonne nouvelle, à cause de cet évangile-là, les gens peuvent se repentir, peuvent changer leur vie, ils peuvent se donner au Seigneur pour être des offrandes agréables à Dieu, pour que les gens se tournent vers lui pour le suivre et le servir, pour porter du fruit pour lui. Puis là, Dieu commence, depuis le temps de Jésus, là, il y a des vraies conversions, des gens qui veulent vraiment vivre pour Dieu, puis des gens qui portent du fruit pour Dieu, des gens qui aiment Dieu, puis qui suivent Dieu. On est 2000 ans plus tard, puis l'Évangile est encore puissant au point de changer la vie des gens pour que les gens qui vivaient dans le péché se tournent encore vers le Seigneur Jésus-Christ pour être pardonnés, puis recevoir l'Esprit Saint pour que par l'Esprit Saint, on soit des victimes, des sacrifices offerts à Dieu. On est des victimes parce qu'on s'est offert à Dieu en sacrifice. On a décidé de vivre pour lui. D'habitude, un sacrifice, tu fais un sacrifice pour le faire mourir. Nous, c'est le contraire. C'est un sacrifice pour vivre pour lui, pour le glorifier, pour obéir, pour faire sa volonté, pour porter beaucoup de fruits. Puis c'est ça que Dieu cherchait. Une nation, il cherchait un peuple qui voudrait lui porter du fruit. Adam et Ève, ils ont manqué leur but. Le peuple juif a manqué leur but. C'est pour ça que Jésus a dit au peuple juif, le royaume de Dieu va vous être enlevé, puis il va être donné à une nation qui va porter du fruit pour Dieu. C'est qui cette nation-là? C'est nous! Les païens, qu'on n'avait même pas le droit d'avoir quoi que ce soit des promesses de Dieu, mais à cause que les Juifs, ça leur a été enlevé, ça nous a donné un accès à pouvoir rentrer, à se donner au Seigneur, puis à être ces gens-là qui travaillent, puis qui vivent pour lui, puis qui le servent, puis qu'on marche avec lui, puis on est heureux de le faire. Jésus, il a annoncé à ses disciples, parce qu'on le voit dans ce verset-là, le dernier verset que je vous ai parlé, Paul, il prêchait l'Évangile afin que les païens soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Les païens sont devenus sanctifiés par l'Esprit Saint. Le mot sanctifié, ça veut dire qu'on est devenu saint. Les païens sont devenus saints par l'Esprit Saint. Fait que c'est ça qui est le merveilleux du message de l'Évangile. Tu reçois non seulement tu reçois le pardon de tes péchés, mais en plus de ça, tu reçois le Saint-Esprit. Puis en recevant le Saint-Esprit, même si nous, les païens, on était les impurs, à cause qu'on reçoit le Saint-Esprit, on est devenus des saints. Les véritables saints qui vont vivre l'histoire sans fin dans le royaume de Dieu. On fait partie des véritables saints qui vont vivre l'histoire sans fin dans le royaume de Dieu. Puis tout c'est à cause qu'on a reçu le Saint-Esprit. Avant, on méritait absolument rien, mais on a reçu le pardon, on a reçu le Saint-Esprit, puis là, on peut vivre d'une manière sainte pour Dieu. Puis là, Jésus a annoncé à ses disciples le secret pour une vie fructueuse, une vie remplie de fruits. C'est ce que je vous dis depuis le début. Dieu se charge des gens qui veulent porter du fruit. Puis le titre du message, « Comment devenir actif et porter du fruit en abondance ?» Là, on fait partie de ceux qui portent du fruit pour Dieu. Puis Dieu, Jésus a annoncé à ses disciples le secret pour une vie remplie de fruits. Est-ce quelqu'un qui sait?
C'est de vivre constamment en communion avec le Seigneur.
Oui.
De plaisir dans sa parole.
Oui, les deux sont bons. Dans Jean 15, le verset 7 et 8, Jésus a dit... Si vous demeurez en moi, ça c'est gardant le contact avec Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire, on laisse rentrer la parole, on la comprend, puis on la met en pratique. Le contraire de ça, c'est de l'oublier puis de rien pratiquer. Ou de pas l'avoir lu pour pas la savoir pantoute pour rien pratiquer. Ça c'est le même résultat. Qu'on l'ait pas lu puis qu'on la mette pas en pratique, ou qu'on la lit, mais on l'oublie, puis on la met pas en pratique, les deux points, on met rien en pratique. Mais pour garder sa parole, ça veut dire qu'il faut la lire, la réfléchir, comprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, puis là, mettre ça en pratique. Fait que notre vie de tous les jours est basée pour faire des choses qui plaisent à Dieu. Faut que Tu demeures dans le contact avec Jésus, puis tu gardes sa parole. Là, le contact, il reste au maximum. Voyez-vous? Puis là, ça dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Là, on voit que Jésus a l'intention, pas juste l'intention, il a fait une promesse. Il dit, si vous demeurez en contact avec moi et que vous vous appliquez à mettre en pratique ma parole, demandez-moi ce que vous voulez, ça va vous être accordé. Puis là, il y a l'autre verset aussi qui est intéressant. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voyez-vous, Jésus a continué à confirmer l'idée qu'il s'attendait à ce qu'on soit des créatures qui portent beaucoup de fruits. Là, il nous donne le secret pour en porter beaucoup. Il dit, demeure en moi, garde ma parole, puis là, demande-moi n'importe quoi, je vais le faire. Puis quand tu vas porter beaucoup de fruits dans ta vie, c'est de même que mon Père y est glorifié. On est en train de vivre pleinement ce que Dieu s'attendait de nous quand on porte beaucoup de fruits. Puis il dit même, vous serez mes disciples. Pour Jésus, il est fier de nous voir aller quand on s'applique à garder sa parole. Il est fier de nous, puis il n'a pas honte de nous. Puis il dit, parce qu'on l'a confessé devant les hommes, mais il va nous confesser aussi devant son Père qui est dans les cieux. Puis là, on arrive dans le dernier verset que je vais vous lire. Une fois que tu gardes ce contact-là, puis que tu portes du fruit pour le Seigneur, tu es dans sa volonté, là. Là, ça, c'est on vient de toucher le secret, comment arriver à avoir une vie active pour le Seigneur, puis à être plein de fruits dans notre vie. Ce qu'on peut rajouter, faire comme l'apôtre Paul, c'est de prier pour qu'on emporte encore plus de fruits. Le verset qu'on vient de lire, il dit, « Si vous demeurez dans ma communion puis que vous gardez ma parole, demandez-moi ce que vous voulez. » Quels devraient être nos sujets de prière? Il dit, « Demandez-moi ce que vous voulez, ça va vous être accordé. » Quels sont les premiers sujets qu'on devra demander dans une réunion de prière?
Et encore plus de fruits.
C'est ça. « Seigneur, je vais emporter encore plus de fruits. » Je veux te plaire, je veux te servir, je veux obéir à ta parole, je veux marcher dans tes voies, je veux garder encore plus la communion, je veux comprendre ta parole pour la mettre en pratique. Ça devrait être des sujets de même parce qu'on, quand on va porter encore davantage de fruits, c'est de même qu'on glorifie le Père. Fait que là, si on veut vraiment rentrer dans une vie pleine de fruits, mettons nos prières axées dans ce sens-là. On peut demander aussi notre pain quotidien, mais il dit, cherche le royaume et la justice, toutes les autres choses vont être données par-dessus. Dieu nous a déjà garanti, occupe-toi de me servir, puis de vivre pour mon royaume, puis je vais tout te donner, tout ce que tu as de besoin. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Fait que je vous encourage, dans la suite de votre vie, là, c'est comme pour qu'on saisisse la vision que Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. C'est à son plan depuis le début, il charge les gens, puis le truc pour en emporter, c'est de garder le contact avec lui, puis de garder sa parole, puis de lui demander, puis il va le faire. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. Puis je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour cette vision que tu nous donnes, qu'on devienne d'être des producteurs de fruits pour ta gloire, qu'on puisse vraiment dans nos vies vivre d'une manière sincère avec toi, à vouloir mettre en pratique ta parole, à garder le contact avec toi, puis qu'on puisse porter du fruit dans nos vies. Je te demande de nous conduire, nous donner une passion pour lire la parole, pour apprendre à la connaître, aller aux réunions pour aller écouter les enseignements, pour grandir spirituellement, pour qu'on puisse devenir des disciples, des gens qui vont marcher d'une manière qui porte du fruit pour la gloire de ton nom. Je te remercie de ce que tu veux faire au milieu de nous. et on remet nos ventres entre tes mains pour que tu nous conduis dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen.